encore un cours sur la substance. Est-ce que la première détermination de l'être, selon la forme, est en puissance face à la première détermination de l'être, selon la fin ? Si la matière est en puissance face à la forme, est-ce que la forme est en puissance face à la fin ? Pas de la même façon. Pas du tout. C'est très bien comme question, parce que c'est très vrai. Mais faisons attention. C'est un ordre d'analyse. Donc, à l'intérieur de notre connaissance. La question de l'ordre que nous mettons dans les causalités, ce n'est pas directement la réalité. Tandis que quand vous voyez la différence entre le point de vue de la matière à l'égard de la forme, ça c'est la réalité. Je crois qu'il faut faire grande attention à ça. Il ne faut pas projeter sur la réalité l'ordre qui existe dans notre intelligence. Ce serait justement la grande confusion que la plupart du temps on fait. Et alors à partir de là, on ne sait plus la distinction entre le réel et l'intentionnel. Je saisis la distinction qui existe entre matière et forme. Et je dis que la matière est toujours relative à la forme, puisqu'elle est pure puissance. Donc, pure puissance, c'est-à-dire que je ne connais la matière qu'à partir de la forme. Je ne peux pas connaître autrement la matière. La matière n'est pas directement en elle-même et par elle-même intelligible. C'est très curieux la connaissance que vous avez de la matière. De la matière comme principe. La matière comme principe fondamental, comme un principe qui ne peut pas exister seul. La matière n'existe jamais seule. Tandis que la forme peut exister seule. Vous voyez, c'est tout de suite très grosse différence. Et ne faites pas la comparaison entre les deux. Alors vous saisiriez la matière non pas comme un principe, mais comme une relation. La matière, je la saisis comme un principe matériel, pure puissance. Propre et nickel, tout proche du rien. C'est très curieux. La connaissance de la matière, c'est pas commode. Hein, vous ne connaissez la matière que par la forme. Elle est toute relative à la forme. De sorte que vous pouvez connaître la forme sans la matière. Et c'est ce qu'a fait Platon. Platon a fait ça admirablement, à la manière de Platon, c'est-à-dire avec un grand chic. Parce que Platon, c'est un grand bonhomme. Il a du sang royal dans les veines. Et ça passe à travers sa philosophie. La forme en soi. La forme en soi, c'est par rapport à la matière. Et alors, elle se retourne sur elle-même, et par le fait même, elle peut être comprise sans, elle peut être intelligible sans la fin. C'est là le grand danger. C'est là les séductions possibles. Tandis que la matière ne peut pas être comprise sans la fin, sans la forme. Vous voyez ? Voilà, tout de suite, ça fait une très grosse différence entre les deux. L'analogie est entre les deux est très lointaine. Il y a une analogie parce qu'il y a un ordre. Parce que la forme d'un principe en elle-même, mais elle n'est pas fin. Et donc l'ordre de la forme à la fin n'est pas le même du tout que l'ordre de la matière à l'égard de la forme. L'ordre de la matière à l'égard de la forme est substantiel. L'ordre de la forme à l'égard de la fin n'est pas substantiel. Il est final. Alors, dans certains cas, il est substantiel. Mais la forme en elle-même se tient, elle est principe. Principe intelligible. Je connais la forme en elle-même et pour elle-même. Je vois qu'en effet, la connaissance de l'être me demande de dépasser la forme et de saisir la finalité, la fin. Donc, c'est très différent. Alors, c'est très bien de faire le parallélisme, mais faire le parallélisme pour montrer que ce n'est pas du tout la même chose. La forme est intelligible en elle-même, tandis que la matière n'est pas intelligible en elle-même. Donc le rapport de la forme à la fin est un rapport qui exige une connaissance spéciale de la fin pour dépasser la forme. Je ne peux pas, par la forme, saisir la fin. La matière, évidemment, elle est inintelligible par elle-même. Toute son intelligibilité lui vient de son ordre vers la forme. Alors, le point de vue est très différent. Et quand vous prenez la matière comme principe, tout le positivisme, au fond, ce n'est plus la matière, c'est la matière qui a été informée et qui est par le fait même, objet d'expérience. Et on considère la matière comme toujours liée à la forme. Et on ne peut pas saisir la forme indépendamment de son union à la matière. Et donc, c'est du côté de la forme qu'on ne saisit pas la forme en elle-même. Le positivisme ne saisit plus la forme en elle-même. Il saisit la matière relative à la forme et la forme dans la matière. Vous voyez ? Donc, le positivisme ne sait pas ce que c'est que la matière, puisqu'il ne la connaît qu'à travers la forme et dans la forme. Alors, c'est très bien comme question. Si la matière est en puissance face à la forme, est-ce que la forme est en puissance face à la fin ? Non. Elle n'est pas en puissance. Mais elle demande d'être finalisée. C'est pas la même chose. En ce sens que je saisis la forme en elle-même et son intelligibilité propre. La substance se tient par elle-même Et c'est pour ça qu'on peut dire que la substance subsiste. Autrement, je ne pourrais pas le dire. Et quand je fais la distinction entre le point de vue de la forme, la quidité et l'essai, l'essence et la forme, et l'essence et l'acte, l'essence est ordonnée à l'acte, mais cet acte, c'est pas la fin, c'est l'essai. Donc, quand vous dites l'essence, c'est du reste, voir à quel moment exactement vous faites cette distinction entre essence et existence. Quand faites-vous la distinction entre essence et existence? Parce que un principe existe. Donc, dans le principe de la forme, de la substance, et inclut l'existence, c'est bien évident. Vous ne saisissez pas la forme comme l'essence distincte de l'existence. C'est encore une nouvelle distinction qu'on fait ça. Et cette distinction-là, on la fait à partir de la création. Je ne la fais pas tout de suite. Je ne vous ai jamais parlé de la distinction entre essence et existence. Ça, c'est la scolastique qui en parle tout de suite, comme si c'était évident. Ce n'est pas évident du tout, la distinction entre essence et existence. Vous voyez, il ne faut pas mêler. C'est au fond là la très grosse difficulté, point de vue de la pensée. Une distinction, il faut toujours comprendre à partir de quoi se fait cette distinction et dans quelle lumière. La distinction entre essence et existence se fait à partir de la création. C'est donc une distinction de sagesse. Et ce n'est pas une distinction qu'on fait au point de vue de la recherche analytique. La scolastique, là aussi, a tout brouillé. On montre en scolastique la distinction essence et existence, ça fait partie des grandes thèses thomistes. Comme si c'était une distinction immédiate. L'essence et l'existence, non. Vous faites la distinction entre nature et sa manière d'exister. Vous faites une distinction entre quidité, qui est dans la pensée, et le jugement d'existence. Et vous pouvez, dans une vision de sagesse, dire dans toute créature, il y a distinction entre essence et existence. En toute créature, donc jugement d'existence. Jugement de sagesse, je veux dire. À partir de Dieu. À partir du Créateur. Il ne faut pas mêler toutes les distinctions. Et c'est très important de bien voir à quel moment se fait cette distinction entre essence et existence. C'est dans un jugement de sagesse. En tout être créé, il y a une distinction entre essence et existence. Voilà. C'est une conclusion. Et ce n'est pas dans l'analyse directe. C'est très important ça, parce que très facilement, on conçoit la substance comme l'essence. Et l'acte, c'est l'essai. Vous voyez ? Alors que ce n'est pas ça du tout. La substance subsiste, donc elle contient l'essai comme un principe d'être. Autrement, vous auriez une abstraction voyez, vous maintenez l'abstraction dans le principe et vous transformez le principe en loi. Quand vous identifiez substance et essence, c'est pas du tout la même chose. C'est deux niveaux tout à fait différents. Dans mon analyse philosophique, je saisis la substance comme un principe. Dans une vision de sagesse, je distingue essence et existence. Alors, remarquez ça bien. En nota bene, il ne s'agit pas de comprendre l'essence, il ne s'agit pas de comprendre la substance comme l'essence, distincte de l'existence. Est impliquée dans la substance l'existence, puisque c'est un principe. Autrement, vous en faites une loi. Vous avez dit, c'est une distinction qui est très importante aujourd'hui, faire la distinction entre la loi et le principe de l'être. Le positivisme confond principe et loi. Ça, c'est le positivisme. Nous devons faire la distinction entre les deux. Alors, je relis la question. Est-ce que la première détermination de l'être selon la forme est en puissance face à la première détermination de l'être selon la fin? Non. Un principe selon la forme est déterminé. Déterminé en soi. Si la matière est en puissance face à la forme, est-ce que la forme est en puissance face à la fin? Non. Je ne peux pas passer de l'un à l'autre. Je dois considérer que ce principe, selon la forme, détermine l'être. L'être est essence et existence. C'est l'être créé, mais l'être est essence et existence. La distinction d'essence et existence n'est pas au niveau de l'être, c'est au niveau de l'être créé. Alors voyez, cette erreur très grave de confondre être et être créé. Parce que si vous confondez les deux, être et être créé, vous ne pouvez jamais atteindre Dieu. Puisque l'être est créé, Dieu n'est pas créé. Donc, je n'ai aucune connaissance de Dieu. Et ceux qui prétendent n'avoir aucune connaissance de Dieu confondent être créé et être. Quand je connais la réalité qui est, je ne dis pas tout de suite, en voyant le crapaud, c'est une créature. En voyant l'homme, c'est une créature. Quand vous voyez un petit bébé, vous dites, oh, quelle belle créature! Non? Oui, il est. Et vous dites, c'est une créature dans un jugement de sagesse, après avoir prouvé l'existence de Dieu. Cette confusion entre être et être créé est constante. Oui. Et alors, à ce moment-là, évidemment, vous ne pouvez plus connaître Dieu. Ce n'est pas l'être créé qui vous fait connaître Dieu tout de suite. Dieu n'est pas en acte dans l'être créé, il est présent, oui, en acte. Il donne l'existence à l'être créé, mais lui n'est pas un être créé, il est au-delà. Et si vous ne saisissez pas l'être en tant qu'être, saisir l'être en tant qu'être, ce n'est pas saisir l'être créé. Parce que l'être créé, ce n'est pas l'être en tant qu'être. C'est l'être en tant que créé. Faites la distinction. Arrivez à faire la distinction. C'est capital. La métaphysique, ce n'est pas l'étude de l'être créé. C'est l'étude de l'être en tant qu'être. Parce que je n'ai pas encore prouvé la création. Et l'être que je connais, je ne connais pas tout de suite d'être créé. Pour connaître tout de suite d'être, pour connaître être créé, il faut avoir connu et atteint le Créateur. Puisque être créé est une dénomination extrinsèque pour l'être. Puisque l'être est créé et incréé. Et vous ne pouvez pas saisir l'être incréé en gardant l'être créé. Il faut revenir à l'être comme être. Oui. Ce sont des petites distinctions qui sont très capitales, parce que ça nous bloque l'esprit. Oui. Et ceux qui nient au fond, la possibilité de l'existence de Dieu, de prouver l'existence de Dieu, au fond n'ont jamais atteint l'être en tant qu'être. Ils sont arrêtés à l'être créé. Alors l'être créé, c'est l'être créé. Si la matière est principe de mouvement, comment la philosophie ou le théologien peuvent-ils parler de la nature divine? Ah, voyez, vous pouvez parler univoquement de la nature, vous pouvez parler analogiquement de la nature. Est-ce que la nature est principe? Et vous en faites un genre. Si vous saisissez la nature comme un genre, Dieu n'est pas nature. Si vous saisissez la nature comme principe, ah, c'est différent. Le principe comme tel, comme principe, hein, principe du mouvement, la nature. Mais je peux saisir la nature comme principe. Elle est principe de mouvement dans tout le monde créé. Et les principes de vie, dans le principe de la nature vivante. Vous parlez de nature vivante. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez de nature vivante? La nature peut être vivante. Il y a une nature non vivante et une nature vivante, c'est encore une nature. Parce que nature exprime d'abord une détermination. Nature formelle, nature matérielle. Ah. Vous faites la distinction entre nature formelle et nature matérielle. Et vous pouvez faire la distinction d'une nature qui est au-delà du mouvement. C'est l'analogie, ça. Les principes sont saisis analogiquement et non pas univoquement. On a beaucoup de peine, hein, de dépasser l'aspect générique pour saisir un principe. Quand je vous dis que la nature n'est pas une loi, je veux vous dire que la nature est un principe qui est saisi analogiquement et non pas univoquement. Parce que vous ne pouvez pas saisir un principe univoquement. Un principe, il est principe. Il est premier. Et le genre n'est jamais premier. Oui. c'est pas commode, c'est sûr. Vous avez les deux registres. Vous avez le registre de la connaissance univoque, univoque générique, différence spécifique, espèce, propriété, accident. Ça, il faut le savoir par cœur, hein, ça. Et vous avez des exemples ad hoc. La matière, le corps, différence spécifique, l'esprit, l'espèce, l'homme, la propriété, le rire, l'accident, cheveux roux. Ou bien chauve. C'est un accident, chauve. Parce que les cheveux sont tombés, accidentellement. Ça, c'est très net, il faut comprendre ça avec facilité. Il faut jongler là-dedans. Et quand vous lisez un article de journal, faites la critique univoquement. Et vous verrez tout de suite les erreurs. C'est très intéressant à faire, du reste. Et puis, analogiquement, vous saisissez les transcendentaux, l'être, l'un, le vrai, le bon, à liquide. Et, alors ça, c'est, je dirais, il faut refaire ça constamment, hein, pour que ça devienne pour nous tout de suite. On voit tout de suite si on a un langage univoque, si on a un langage analogique. Si vous ne faites pas cette distinction-là, vous resterez toujours dans le genre. Et vous resterez positiviste. Et vous ferez une théologie positiviste. Donc une erreur. Vous parlerez de la grâce divine. Puisque la grâce divine est divine. Tout ce qui est divin ne peut pas être univoque. Dieu n'est pas univoque. Tout ce qui est divin ne peut pas être univoque. Tout ce qui est divin ne peut être saisi par moi que analogiquement. Si la grâce est une participation directe à la nature de Dieu, elle ne peut être saisie qu'analogiquement. Par le fait même, je prendrai non plus la distinction genre et différence spécifique, mais je prendrai la distinction, la ratio de genre et les modes particuliers du genre. La grâce de justice originelle, la grâce chrétienne, deux modes différents de la participation de la nature divine en moi. La grâce qui chemine dans la foi, dans l'espérance et la charité, et la grâce qui s'épanouit dans la vision béatifique. C'est toujours la grâce, mais selon des modalités différentes. Alors, la modalité est inclue dans la ratio. Dans la ratio analogique, tandis que la différence spécifique n'est pas inclue dans le genre. Vous voyez la grosse différence. Le genre et la différence spécifique expriment tous les deux des principes, des réalités différentes. Et la différence spécifique n'est pas inclue dans le genre. Vous avez le genre animal. La différence spécifique, raisonnable ou non raisonnable. La différence spécifique, c'est la différence entre l'homme et le porc. L'homme, normalement, est raisonnable. Le porc, raisonnablement, n'est pas raisonnable. Donc raisonnable n'est pas inclus dans le genre animal. tandis que la grâce est grâce de justice originelle. La justice originelle est inclue dans la grâce. La grâce est chrétienne. Le mode chrétien est inclus dans la grâce. C'est toujours la grâce. Mais elle a deux modalités différentes. Et ces modalités sont incluses dans la grâce. Et ça, c'est très important de faire cette distinction-là. Autrement, on fait des erreurs monumentales au point de vue théologique. Considérer la grâce comme un genre, c'est mettre Dieu dans un genre. Déjà, votre intelligence ne peut pas être dans un genre. Le rationnel n'est pas l'intelligence. Le rationnel est une modalité de mon intelligence. Il y a des gens très intelligents qui sont intuitifs. Il y a des gens peu intelligents qui raisonnent très bien. Raisonner, c'est la logique. La logique ne dit rien vis-à-vis de l'intuition. La logique ne me dit rien de Dieu. Donc, tant que je reste dans la logique, je reste dans le point générique. Et dès que je quitte le point de vue générique, je tombe dans le point de vue analogique. Et le point de vue analogique s'ouvre à Dieu. Oui. C'est la souplesse qu'il faut avoir, là. C'est évident que Descartes n'a pas cette souplesse-là. Descartes n'a rien compris à l'analogie. Et on est tous un peu cartésiens, ou un peu kantiens, ou un peu heideggeriens. Mais ce serait intéressant de regarder ça. Un peu kantien, un peu cartésien, le français. Un peu kantien, l'allemand. Un peu heideggerien, l'anglais et l'américain. Et le français. Il y a des Français qui sont kantiens. Il y a des Allemands qui sont kantiens. Mais la majorité, il y a des Allemands qui sont cartésiens. Il y a des Anglais qui sont cartésiens. Mais l'anglais est jungien, c'est Jung. C'est très curieux, et ce serait du reste très intéressant à faire, de voir que ces diversités montrent le caractère différent, très fondamentalement, de l'intelligence grecque, de l'intelligence française, de l'intelligence allemande, de l'intelligence italienne, de l'intelligence anglaise. Il faut s'amuser à ça. Ça, c'est un amusement très intéressant et profond. Parce que ce sont des modalités de vie d'intelligence différentes. Et quand on vit, vous voyez, avec des Français, avec des Américains, avec des Allemands. Je crois qu'on doit faire cette distinction-là, pas pour appliquer, pas pour dire « Ah, tu es allemand, kantien, tu es français, Descartes !» Non, non, ça c'est une vision extrinsèque et générique. Et une distinction analogique. Et c'est ici. Alors l'Africain, qu'est-ce qu'il est ? Bon, ça. Je continue le cours. Je ne sais pas l'heure qu'il est. Mais il faut voir la nature n'est pas, quand je saisis la nature, je la saisis comme un principe. Principe, la nature physique et principe du mouvement physique. La nature au niveau spirituel et principe de l'opération spirituelle. Donc, elle est principe du devenir. En Dieu, évidemment, il n'y a pas de devenir. Donc, si je parle de la nature de Dieu, en réalité, je parle de sa substance. Puisque c'est l'être. Ma seule connaissance que j'ai de Dieu, c'est par l'être. Alors vous comprenez, hein, si vous comprenez ça, vous comprenez que la métaphysique est indispensable pour parler de Dieu. Puisque dans la métaphysique, je regarde l'être en tant qu'être. Et l'être en tant qu'être, c'est cela qui me permet de parler de Dieu correctement. Donc la nature est principe du mouvement. L'âme, elle est principe de l'opération vitale. L'opération vitale implique le devenir. Mais l'opération vitale a comme caractère propre d'être immanent. Le devenir n'a aucune immanence. Le devenir pur n'a aucune immanence. Il est juxtaposé. Vous voyez, il n'est qu'à penser à un tas de briques. Un tas de briques. Il n'y a pas d'immanence dans le tas de briques. Vous avez une brique, puis au-dessus une autre brique, puis au-dessus une autre brique, puis au-dessus une autre brique. C'est extérieur. Demandez à la brique, quand elle est à côté d'une autre brique, elle a une connaissance tout à fait extérieure de la brique. On accumule. Tandis que la vie assimile. Et l'assimilation est propre à la vie. Le monde physique n'assimile pas. Vous comprenez très bien, quand vous avez mal à l'estomac, de parier, c'est que la vie n'a pas assimilé la nourriture. Oh. Il y a eu un manque de vitalité pour assumer la nourriture. Et alors, les nourritures se sont ajoutées les unes aux autres, d'une façon tellement bien que vous avez envie de... Et avoir envie de vomir, c'est le physique qui l'emporte sur la vitalité. Vous avez tous eu cette expérience. Bon, alors vous comprenez la différence entre la nature et la vie. Parce que vous voyez, une chose assimilée, elle est assimilée. Elle est mon être, elle est assimilée, c'est pleinement assimilé. Ah, ce n'est pas assimilé. Alors ça demande envie de sortir. Parce que c'est pas assimilé, c'est accumulé. Vous avez une brique, une toute brique, une brique. Ah, au bout d'un certain temps. Et au point de vue cuisine, hein, au point de vue des repas, c'est ça, il y a des choses qu'on assimile, puis certaines choses qu'on n'arrive pas à assimiler. Il y a des cuisines qu'on n'arrive pas à assimiler. Mais ça s'ajoute. Et c'est extrinsèque. Le physique, à cause de la matière, c'est extrinsèque. C'est juxtaposé, mais ce n'est pas assimilé. Il faut saisir ce que l'assimilation. Une fois que vous avez saisi l'assimilation, vous saisissez ce que c'est que la vie. La vie assimile. Alors, pensez à l'indigestion. Pensez à l'envie de vomir. Vous en avez l'expérience. Alors, parce que vous avez compris, en vous, vous avez la nature et vous avez la vie. Et vous n'êtes pas un vivant parfait, parce que vous êtes physique. Vous avez une matière rebelle, la vie. Et quand la matière est trop forte et trop rebelle, on claque. La vie disparaît. Il faut en avoir l'expérience. Et la substance, c'est la détermination de l'être. Au-delà du physique, au-delà du vivant. Dire que mon intelligence est vivante uniquement, c'est ramener l'intelligence à la simulation. C'est ce que fait Hegel. Hegel dit qu'il faut comprendre la vie de l'intelligence comme la vie végétative. Oui, univocité. Et non pas analogie. Entre la nature, l'âme, la substance, je saisis ça analogiquement. Analogiquement, ils sont tous premiers dans l'ordre de la forme. Mais sont tous premiers dans l'ordre de la forme au niveau physique, au niveau vie, au niveau être. Et vous arrivez à distinguer progressivement le point de vue de la nature physique. Nous sommes tous liés à la nature physique, à la chaleur, au froid, à l'eau, à la terre. Il y a toujours tout ça en vous. La nature, avec le corps. Vous êtes lié à la vie. Vous êtes vivant. Donc, tant que vous assimilez l'air, vous vous nourrissez de l'air. C'est vrai, on en a besoin. On se nourrit de l'air, on respire. À ce point de vue-là, vous assimilez toute la journée. Parce que vous respirez. Et toute la nuit. Parce que il ne faut pas mourir pour dormir. On vit en dormant. Et autant que possible, on laisse la vie végétative tranquille. Mais ordinairement, l'imagination bat la campagne. Et l'imagination empêche le vivant de se reposer. Vous avez des cauchemars. Et quand vous avez des cauchemars, vous vous reposez très mal. Vous vous réveillez en pleine guerre. C'est pour ça que c'est quand l'imagination est très, très développée par le cinéma, développée par toutes les recherches qu'on peut avoir fait soi-même, on n'arrive plus à dormir. Quelqu'un qui se plaint qu'il n'arrive plus à dormir, ça arrive, hein. C'est parce que l'imagination est trop développée. L'intelligence, c'est très rare que l'intelligence empêche de dormir. C'est l'imagination. Vous voyez, quand vous êtes saisi par l'imagination, on vous apprend une mauvaise nouvelle à 10h du soir. Bigre, la nuit est fichue. Parce que l'imagination portera tout le temps. Surtout quand quand on est jeune. On arrive à dormir malgré ça. Parce que le sommeil est plus puissant. Mais quand on vieillit, l'imagination ne vieillit pas. C'est mon corps qui vieillit. Mais l'imagination ne vieillit pas. Et l'intelligence ne vieillit pas. Et alors, très facilement, quand l'intelligence n'est pas très développée, la vieillesse, c'est l'imagination. C'est le passé. On vit du passé. Oui, quand on avait en pleine vitalité, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on vit de ça. Oui, c'est très, très curieux, ça. Donc, bien distinguer nature, âme, substance. Il faut arriver à bien distinguer ça. C'est pour ça que pour les anciens, parler d'une âme végétative, d'une âme sensible, d'une âme spirituelle. Alors, l'homme n'avait pas trois âmes, il y avait une seule âme qui était l'âme dans le corps, l'âme végétative, l'âme sensible, l'âme intellectuelle. C'était l'âme unique. Et on considérait que tout vivant avait une âme. Mais on parlait d'une âme pour distinguer de la nature. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. On parle tout simplement de nature, d'un rosier qui donne des roses, la nature d'un poirier qui donne des poires. La vie végétative s'achève dans la fleur et dans le fruit. Enfin, c'est l'achèvement de la vie végétative. Et ça, c'est la nature. C'est la nature ou c'est l'âme. Et puis, il y a l'intelligence, qui est une âme spirituelle, une âme au-delà de la matière. Donc, voyez comment la substance, c'est selon la forme, le principe selon la forme, dans l'ordre de ce qui est en tant qu'être. Et non pas ce qui est dans l'être créé, de ce qui est en tant que l'être. C'est pour ça que vous pouvez parler de la substance de Dieu et de la nature de Dieu dans l'ordre de l'être. Et les principes. Le principe, ce n'est pas une loi. Donc, le principe, c'est ce qui est la source de tout ce qui s'épanouit à partir de là. À partir de là, à partir de l'âme, s'épanouit toutes les opérations vitales. À partir de ma substance, s'épanouit toutes mes opérations humaines. Toutes mes opérations humaines s'épanouissent de ma substance. Alors, les opérations qui sont les opérations humaines viennent de l'âme intellectuelle, spirituelle et volontaire. Mes opérations qui proviennent de la vie sensible proviennent de l'âme de vie sensible. Et puis, il y a l'âme vie végétative. C'est la même âme. Et vous avez toutes les opérations différentes. C'est pour ça que, ayant précisé ce qu'est la substance, je peux préciser maintenant, à partir de cette vision, cette connaissance de la substance, voir comment cette substance spirituelle s'épanouit dans l'intelligence, s'épanouit dans l'amour, s'épanouit dans l'imagination, s'épanouit dans la vie végétative. Et je comprends mieux ce qu'est l'âme.